Caribbean.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Liberté, égalité, diversité, c'est la nouvelle exposition de l'abbaye de Daoulas. En compagnie de Philippe Ifri, directeur des chemins du patrimoine, d'Hervé Lebras, démographe et d'Edith Joseph, chargée d'exposition, nous avons sillonné l'installation. Elle nous présente le portrait de la France unie grâce à sa diversité.
L'idée de cette exposition, elle a germé à partir de la réflexion qui porte le projet culturel que nous mettons en œuvre dans l'établissement public. À savoir que c'est sans doute depuis la Bretagne, et encore mieux, depuis le Finistère, que, avec les singularités de ces territoires, ces appartenances, ce goût, même ce désir parfois d'enracinement qu'en ont les habitants, avec quelques fiertés évidemment, et bien que ce territoire finistérien était un observatoire privilégié pour examiner comment la globalisation du monde, ce qu'on appelle la mondialisation, interagissait, parfois même entrait en conflit avec ce sentiment d'appartenance. Est-ce que cette situation qu'on trouve ici, on la trouve bien sûr ailleurs. Et à Daoulas, donc, nous avons l'habitude finalement d'illustrer et d'explorer cette diversité culturelle à partir de comparaison avec des sociétés lointaines et sur des thématiques qui sont communes à des sociétés, mais on a regardé comment elles se déployaient dans des contrées lointaines. On l'a vu l'année dernière, cette exposition avec le musée du Quai Branly sur la chevelure. L'année d'avant, on avait travaillé sur la peau. L'année encore avant, sur l'idée de l'irrationnel avec le bonne fortune et mauvais sort. Et donc, on n'est pas insensible à l'actualité et à la lumière de ces débats que nous avons eus et qu'on a encore sur la préservation d'une identité, je mets ça avec beaucoup de guillemets, d'une identité française qui serait menacée. Force était de constater que notre République, qu'on dit une et indivisible, ben finalement, elle savait trouver bien des accommodements. On a un accommodement avec la religion, par exemple, sur le territoire métropolitain avec l'Alsace-Moselle et le Concordat, ou d'autres accommodements aussi baroques, le fait qu'à Wallis et Futuna, je croyais qu'il y avait deux, mais c'est en fait trois rois. Donc la République s'est accommodée de beaucoup de choses. Et donc, on pourrait avoir plein d'autres exemples, surtout quand on prend la focale la plus large, qui est celle des territoires et des collectivités d'outre-mer. Mais en fait, cette diversité culturelle au sein même de la République, c'était ça le projet initial de l'exposition, et puis sans doute là encore avec l'actualité, on s'est posé la question plutôt autour des migrations, de l'émigration même, et de la crise des migrants, des crispations, du débat politique sur l'immigration. En fait, ça nous a amené à aller chercher cette diversité au plus proche de nous. On n'était peut-être pas obligé d'aller sur nos territoires d'outre-mer et de voir que cette diversité, elle existe là aujourd'hui autour de nous. Donc l'idée, très clairement là, c'était de dire regardons cette diversité au plus proche de nous, et c'est cet exercice qu'on a fait. On parle aussi de diversité culturelle, même si l'exposition fait référence à la devise républicaine.
J'ai été contacté par l'abbaye de Daoulas pour fond dresser un cheminement dans l'idée qu'il y avait une sorte de correspondance entre une grande diversité qui nous vient du passé et puis une diversité qui est actuelle. Et donc on était dans une dynamique de la diversité. Et qu'entre les deux, pour tenir cette diversité, c'est la partie centrale de l'exposition, il y a des institutions républicaines, parce qu'effectivement, il y a un certain doute, on parle de fractures de toutes sortes en France. Un de mes amis et co-auteur, Jérôme Fourquet, a fait un livre où il parle de l'archipel français. Donc on a l'impression que tout se met à éclater, mais quand on regarde les choses sur le fond, il y a une structure de la France, une structure institutionnelle qui reste très solide, et ça vaut le coup de le rappeler, qui est une structure politique, administrative, et qui a de plus en plus été une structure sociale. On est quand même parmi les 28 pays d'Europe, le pays qui consacre la plus forte partie de son revenu, de son PIB, de son revenu national, aux prestations sociales. Ça veut dire que ce n'est pas un vain mot, l'égalité qui figure dans le titre de cette exposition, et on a trop tendance à l'oublier. Alors bien sûr, il y a des tas de défauts, rien n'est parfait, il faut chercher à les remédier, certains y arrivent plus ou moins bien, certains gouvernements s'y prennent plus ou moins bien, mais on oublie qu'il y a un fondement qui est extrêmement solide et un fondement qu'il faut préserver, et je pense que c'est aussi dans les objectifs de cette exposition de rappeler l'existence de ce fondement.
Alors ici, vous entrez dans l'espace introductif de l'exposition, qui n'est pas vraiment une introduction de contenu, mais plutôt une introduction de sensation, de ce qu'on appelle immersive, c'est-à-dire que vous n'avez face à vous que des Mariannes. Alors, pourquoi que des Mariannes ? Alors, pour les gens qui ne voient pas ce qu'on voit, on a ce symbole qui est un très gros symbole connu de tous de la République française. Mais ce qu'on voit en les regardant, c'est qu'elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes et on a voulu exprimer par là un peu déjà cette diversité de la représentation de la Mariane, alors que c'est un symbole d'union, mais qui peut s'exprimer en fonction des époques ou en fonction des lieux sous une forme plastique totalement différente. La Mariane a souvent été pris pour modèle chez des actrices connues comme Brigitte Bardot, que vous avez en face de vous, qui est la Mariane de la mairie de Daoulas, mais aussi des Mariannes beaucoup plus artistiques comme celle d'Hervé Durosa, qui en fait est la Mariane de la mairie de Bobigny. Toutes ces Mariannes sont des Mariannes de mairie, mais vous pouvez voir que, en fonction des époques et surtout de la façon dont on se représente cette idée de Mariane, elle est très diverse en termes de représentation.
Ça pose pas de problème aux mairies de se séparer de leur Mariane pour quelques temps ?
Alors, je dois avouer qu'on a rencontré beaucoup de bienveillance de la part de tous les prêteurs et les mairies étaient très emballées, au contraire, de pouvoir présenter dans une exposition leur statut. Donc ensuite, vous avez ce premier espace dont je vous parlais, qui parle de la France, de la diversité du territoire français. Alors, vous avez une collection de couvre-chefs, tous viennent du MUCEM, et cette délicate idée d'exprimer en fait la diversité des Français au travers de ce qu'on appelle un peu de façon barbare nos cercles d'appartenance sociale. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'on a trois cercles d'appartenance, c'est la vie institutionnelle, la vie en communauté et la vie de famille. Et en se servant de cette idée-là, on s'est amusé à emprunter au MUCEM une série de chapeaux qui représentent à chaque fois ces cercles. Et au sein de ces cercles, on voit très bien les particularismes français, mais aussi la grande diversité que ça recoupe, qui ne permet pas de donner un chapeau par cercle qui exprimerait ce que c'est les habitudes sociales des Français. Ensuite, on a présenté un diaporama qui présente les photos de Yann Arthus Bertrand, qui présente la France. Vous pouvez reconnaître très facilement certains paysages et d'autres qui pourraient être finalement totalement ailleurs. Et c'est un peu ce qu'exprime notre premier grand éclaireur, qui est Christian Grataloup, sur l'idée du territoire et de la construction du territoire. Qu'en fait, lui nous exprime le fait qu'il n'y a pas de géographie naturelle, entre guillemets, que toute géographie est politique et que du coup, la fabrique d'une unité nationale se fait aussi au travers de ce qu'elle est nourrie de la diversité des territoires.
Ces grands éclaireurs, c'est des philosophes que vous avez invités et du coup, il y a les vidéos qui sont retransmises à l'exposition ?
Oui, alors on a été voir... Alors ce n'est pas tous des philosophes, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs grands domaines en sciences humaines de représenter. En l'occurrence, M. Grataloup est géographe. Monsieur Lebras est démographe, Madame Ozouf est historienne. Et donc, effectivement, on est allé poser une question de démarrage assez simple à chacune de ces personnes pour qu'ils nous éclairent, en gros, tantôt sur le territoire, sur les appartements à diverses cultures, sur ce qu'est l'État-nation, sur l'idée d'origine, ce qui permet, en fait, de faire le point assez synthétiquement, en 3 minutes, sur quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Et en parallèle, on a une citation d'un auteur, mais plus historique, c'est-à-dire qu'on a le penseur contemporain versus un auteur qui appartient à l'histoire. Là, vous avez en l'occurrence, face à Christian Grataloup, une citation de Lucien Febvre qui dit « La France se nomme diversité ».
Voilà, donc ça mène aussi à réfléchir sur les questions actuelles aussi.
On a voulu surtout donner de la profondeur aux questions actuelles, en toute modestie, mais donner des éléments factuels au grand public, que ces éléments soient pris dans l'histoire, dans la géographie, dans la sociologie ou dans des disciplines plus poétiques, hein, comme on l'a à la fin de l'exposition avec un écrivain, leur donner des éléments, une sorte de boîte à outils finalement, pour que chacun puisse se forger une opinion sur les choses en ayant un maximum d'informations qui appartiennent aussi bien au passé qu'au présent. Sur le cadre que donne à la fin de cette première partie sur la diversité du territoire, on est sur le premier cadre qui est celui de l'État-nation, où on voit une diversité de documents qui nous montrent comment le territoire français s'est structuré à partir de la Révolution française, qu'est-ce que c'est que l'État. L'État, c'est avant tout quelque chose d'administratif et juridique, donc on voit ces cartes très rigolotes qui font des petits carrés sur la France, qui étaient en 1789 le schéma de séparation des départements, mais aussi l'idée de nation avec des symboles qui datent de la Révolution française, où on voit une affiche avec unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort, avec un sans-culotte, c'est pour un peu galvaniser la notion de patriote de l'époque. Mais on a aussi tenu à montrer ce que ça pouvait donner de façon contemporaine, puisque on a emprunté au MUCEM des documents qui datent des attentats de la grande manifestation qui a lieu en janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo, et qui montrent que quand le peuple se sent attaqué, il va se réunir de nouveau autour de symboles que sont le drapeau, la Marianne et la devise française. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mort dans le temps. Donc ici, on se situe dans la seconde partie de l'exposition. On parle plutôt des Français. On a intitulé le texte « Un peuple en mouvement » pour montrer en quoi aussi la France, qui est un carrefour européen, a connu divers apports de populations variées. Alors les premières migrations dont on parle, ça surprendra plus d'une personne, mais c'est celle de la province, parce qu'on commence à la moitié du 19e siècle, puisque c'est la période à laquelle on commence à avoir des informations scientifiques solides, où on a des chiffres pour savoir qui vient d'où et comment les gens se déplacent. Et on constate que les premiers étrangers sur les registres, ce sont les provinciaux qui viennent sur Paris. C'est pour ça que vous avez une série d'images où on voit aussi l'aspect stéréotypique qu'on a sur le rémouleur, la bonne bretonne, le petit ramoneur savoyard. Et aussi, que les premières personnes qui vont se déplacer sur le territoire, ça va être les gens qui sont des frontières proches, comme les Belges et les Italiens. Et puis, on verra dans cette salle, à l'aide de photographies qui ont été réalisées depuis les années 20, comment s'est passée cette immigration. Parce que les gens se sont déplacés pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. On va parler de populations qui se déplacent dans les années 20 pour cause d'exil, comme les Arméniens, mais aussi le besoin en main-d'œuvre ouvrière qui fait qu'on a beaucoup d'Algériens qui vont venir sur la métropole, puisqu'à l'époque, l'Algérie, jusqu'en 62, je le rappelle, était française, donc c'était plus facile d'avoir de la main-d'œuvre d'Algérie. Et puis comme ça, on se déplace. Alors c'est pas exhaustif, parce que l'idée, c'est pas de faire l'histoire de l'immigration, mais c'est de montrer comment, au travers d'un siècle et demi, on a un dynamisme de population qui vont constituer la citoyenneté française. Parce qu'un étranger ne reste pas un étranger, je dirais, ad vitam aeternam sur le territoire français. Il y a toujours un moment où il y a une demande de naturalisation qui, en fonction des époques, se fait plus ou moins facilement, et il devient constituant de la citoyenneté française. Pour finir ces premiers éléments sur la diversité de la population française, du français, on a choisi de faire du recueil de témoignages dans le Finistère en demandant à 6 personnes de nous expliquer leur parcours, leur regard par rapport à leur citoyenneté au travers, au départ, d'un objet. Vous allez avoir dans chaque vitrine un objet et ils parlent de cet objet pour nous expliquer leur relation à la nation française, à leur citoyenneté, à leurs diverses origines, qu'elles soient bretonnes ou algériennes d'ailleurs.
Donc c'est aussi une exposition participative. Vous avez voulu aussi inclure le public au sein de cette exposition ?
Bah, inclure le public, oui, parce que dans cette exposition, il y a un élément qui est très important, c'est l'empathie. C'est-à-dire, pour ne pas donner un cours d'instruction civique aux visiteurs, il faut passer par l'empathie. Et comment faire mieux que de passer par du témoignage direct et justement toute une approche anthropologique qui mène à dire que si eux s'expriment, moi aussi je peux m'exprimer, moi aussi je rentre dans un dialogue un peu fictif puisque les gens ne sont pas en face de moi, mais je peux à mon tour m'exprimer sur ce que je ressens et la façon dont je vis les choses. Et donc on s'interroge ensuite sur mais qu'est-ce qui tient toute cette diversité, tous ces Français qui sont issus d'une diversité foisonnante d'origine, d'appartenance, d'héritage aussi. Est-ce que c'est ce que nous dit M. Abdelatif Chaouit là, puisqu'il est ethnopsychiatre, il nous parle de l'héritage multiple qu'on peut avoir en tant que Français. Eh bien, en gros, c'est le fait d'adhérer à des principes républicains. C'est-à-dire que les principes républicains, c'est ce qu'on trouve dans les devises, la liberté, l'égalité, la fraternité, on dirait plus aujourd'hui la solidarité, la capacité à avoir des codes pour vivre ensemble. Et finalement, ce qui fait de nous des Français, au-delà de nos papiers d'identité, c'est l'adhésion à ces principes. Donc là, on a choisi de le montrer en passant par le premier rapport finalement qu'on va avoir à la citoyenneté, c'est celui qu'on a à l'école. Donc on s'est projeté dans le temps en montrant que depuis Jules Ferry, depuis la Troisième République, on a exposé un certain nombre de manuels scolaires qui viennent de musées, du Musée national de l'éducation ou du musée de Botoa, le musée de l'école de Botoa qui s'étudie dans les Côtes d'Armor, où on voit à travers des grands ouvrages qui sont passés de main en main, on a le Lavis qui est un livre d'histoire qui a été créé en 1870, qui a été utilisé jusque dans les années 50, qui rebrosse comme ça l'histoire de France avec ces grandes batailles qui construisent ce qu'on appelle le roman national, le récit national, et aussi qui donne une espèce de morale, une instruction civique qui doit apprendre aux jeunes Français en devenir à se comporter comme un bon citoyen. Et puis ensuite, bien sûr, un point est abordé sur ce que c'est que l'école de la République. Et on fait un petit point sur une école républicaine et sur les principes de liberté de conscience, c'est-à-dire en quoi la laïcité qu'il y a à l'école recoupe non un rejet, mais plutôt une liberté de conscience, à savoir que toute pensée religieuse ou non religieuse peut exister, mais que l'école, en tout cas, ne permet pas de laisser le pas de l'une sur l'autre, parce que, justement, à l'école, on graisse sur une liberté de conscience qui est le principe de laïcité. Et puis ensuite, comme sur le principe précédent, on a souhaité avoir cet élément qui est lié à l'éducation du futur citoyen que nous étions enfants dans la contemporanéité. Donc on a été voir les collégiens de l'école de Daoulas, une classe de 5e, qui se sont penchés très sérieusement sur leur rapport à la démocratie, et donc du coup qui nous ont donné leur impression sur c'est quoi la liberté, c'est quoi l'égalité, c'est quoi vivre ensemble, c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'égalité de genre aussi entre les filles et les garçons, les différences culturelles, les différences économiques. Et donc ils nous ont livré un peu leurs premières impressions de jeunes citoyens. Et donc du coup dans la troisième partie de l'exposition, vous retrouvez ce rapport à la culture et à l'universalité surtout, c'est-à-dire comment la France est dans le monde et comment ce monde se retrouve dans la France. Par déjà un positionnement géographique certain qu'on voit depuis le début, la France est un carrefour d'échanges. La France, il ne s'agit pas du rayonnement de la France, de sa propre culture, mais plutôt de la façon dont la France reçoit un pluralisme culturel que du coup elle fait passer. Et nous, on a souhaité montrer ça au travers d'expressions artistiques, culturelles, parce que quand on est sur une expression artistique, on est forcément sur quelque chose de mouvant, quelque chose qui s'adapte et qui évolue en permanence. Et comme une évidence, l'expression artistique est forcément à la fois universelle, universelle dans son désir de reprendre à la fois ses cultures racines, mais aussi ses cultures à porter. Et qu'on peut dire que l'État français facilite l'accès aux cultures des autres et au partage, parce que tous ces artistes que vous avez devant vous sont des artistes français, certes, mais ils ont aussi eu la possibilité de travailler sur leurs racines, de travailler sur un rapport au monde, de travailler sur une notion d'accueil à travers la France. Et donc, du coup, vous pouvez voir à la fin de l'exposition le principe participatif pour le public. Alors, à Daoulas, nous avons pour habitude d'avoir un principe participatif à des expositions. Alors, d'une part, vous pourrez laisser à l'aide d'une grande carte, d'une grande planisphère, votre trace d'histoire. Le principe est très simple. Vous avez donc ce planisphère. Vous êtes muni de gommettes de deux couleurs différentes. Une où vous pouvez situer l'endroit où vous vivez actuellement, que ce soit de façon temporaire ou définitive. Et une autre gommette qui vous permet de définir vos origines. Qu'elle soit d'ailleurs mythique, comme on dit, enfin, quelle que soit l'origine de laquelle vous vous revendiquez. Si vous avez un dixième de votre sang polonais, mais que c'est important pour vous de dire que vos origines sont de Pologne, vous collez votre gommette jaune sur la Pologne. C'est aussi une façon de parler de cette question sous-jacente qu'on parcourt tout le long de l'exposition, de désappartenance. Questionner les appartenances. Je suis un individu, mon identité, elle est plurielle. Mon identité, c'est un patchwork, et donc finalement, là, j'exprime mon appartenance par mes origines, par là où je suis, de façon totalement libre et en fonction de ce que moi je veux dire sur moi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait sur cette exposition ?
J'ai été chargé de deux choses. Au tout début, c'était de concevoir la ligne générale de l'exposition, donc le découpage des grands thèmes, notamment en trois thèmes, mais j'ai toujours travaillé en lien avec l'équipe, et puis aussi de trouver des textes ou de faire quelques suggestions. Puis ensuite, ça a été peut-être une tâche plus difficile, c'est de faire les textes que vous voyez qui présentent chaque partie de l'exposition. Et là, on a beaucoup travaillé par aller-retour, parce qu'on n'a pas toujours la même sensibilité sur un certain nombre de thèmes ou de termes carrément.
Il y a quelque chose qui vous touche plus dans l'exposition, sur tout ce qui est présenté, sur les différentes parties qui touchent la définition un peu de l'identité nationale ?
Ben justement, c'est qu'on s'interdit de parler d'identité nationale d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même bien, parce que si vous vous souvenez, Sarkozy avait lancé un grand débat qui s'appelait le grand débat sur l'identité nationale, et ça avait foiré complètement, d'ailleurs, inévitablement, parce qu'on ne peut pas définir la France. Il avait donné toute une liste de thèmes au préfet qui était tout à fait ridicule. Il y avait notamment un des thèmes qui s'appelait « Notre universalité », comme s'il y avait plusieurs universalités, l'une française et une autre, et tel ou tel pays. Donc c'est une contradiction dans les termes, et ça s'était mal terminé parce que ça n'a pas de sens. En revanche, on peut par exemple parler d'une identité européenne ou d'une identité bretonne, parce qu'il n'y a pas de passeport breton, il n'y a pas de citoyenneté bretonne, il n'y a pas de citoyenneté européenne, même si on emploie quelquefois le mot à tort, mais on vote au fond, on vote pour des intermédiaires qui sont les députés de l'Assemblée européenne, mais on ne vote pas pour le président de l'Assemblée, on ne vote pas pour la Commission. Donc, tant que les choses sont relativement floues, on peut employer le terme d'identité. C'est un terme qui nous vient en fait du 19e siècle, quand il y a eu le mouvement des nationalités. Donc, c'est vrai qu'il y avait une identité tchèque, qu'il y avait une identité hongroise, et puis elles se sont matérialisées, et puis il y a eu un État hongrois et un État tchèque. À ce moment-là, il n'y a plus besoin de parler d'identité. Ça y est, le travail est fait. Et au contraire, le travail, c'est qu'il y a un État qui fonctionne, il y a un État qui, au fond, fonctionne dans le sens où la République a fonctionné pour la France, avec de l'égalité, avec de la liberté. Mais l'identité, je l'ai perçue beaucoup en France comme un peu un moyen de dire qu'il y a des citoyens plus ou moins français. Et dans l'idée de l'identité française, il y a l'idée qu'il y a des Français qui seraient plus égaux que d'autres. Et les autres, on connaît leur nom, c'est les immigrés. Mais 40% des immigrés ont la nationalité française. Ils sont français comme vous et moi. Et il n'y a pas de de raison d'essayer de les mettre de côté. Et au fond, dans cette exposition, je trouvais que c'était justement un moyen, finalement, de combattre la notion d'identité, en montrant ce qu'est la France dans sa diversité, en montrant que ce qui est aussi important, c'est qu'il existe un État et un État social.
Il y a une partie aussi sur l'éducation à la citoyenneté. C'était important aussi de montrer cette partie-là.
Oui, ça nous a donné beaucoup de difficultés, parce que personnellement, j'étais un petit peu réticent dans la mesure où, comme vous le savez, le système éducatif français marche de moins en moins bien, il faut bien le reconnaître. Au départ, ça a été formidable, l'école universelle, et on est beaucoup resté là-dessus. Donc, on n'était pas tous d'accord, parce que l'accent voulait être mis sur ce côté universel de l'éducation. Et connaissant ce qui se passe actuellement dans l'école et par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, je trouvais qu'il fallait mettre quelques bémols. Vous connaissez cette question des enquêtes PISA, par exemple, qui montrent que parmi les pays européens, la France est le pays où la réussite des enfants dépend le plus du niveau social des parents. C'est quand même quelque chose de grave, parce que c'est le contraire de ce qui était voulu au départ par la République, et on peut pas dire qu'il y ait une réaction forte pour corriger cela, alors qu'on voit comment ça se passe dans des pays nordiques, mais même en Allemagne ou même en Angleterre, et on pourrait apporter des correctifs. Donc c'était difficile de trop insister sur un côté positif de l'école cette fois-là.